Coupe du monde de soccer. Directement de la Russie, retrouvons Arcadio Marcuzzi.
Bonsoir Arcadio.
Salut Paul.
Le choc du jour, l'Allemagne éliminée de la Coupe du monde.
Incroyable, incroyable. Le choc est entier, comme tu le dis, Paul. C'est la troisième fois consécutive que le champion à titre est éliminé dès la phase de groupe après l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014. L'Allemagne se joint à cette triste liste de champions à titre qui rentrent à la maison très tôt dans le tournoi.
On aurait pu comprendre si ça avait été, je ne sais pas, contre la Belgique, à la rigueur, contre la Suède, que les Allemands avaient déjà battu dans le tournoi, ou peut-être l'Angleterre. Mais contre la Corée du Sud, est-ce que la Corée du Sud a un football à ce point amélioré?
Ben, il faut commencer à le croire, parce que le match qu'ils ont fait contre les Allemands, c'était pas le plus beau football. Là, on jouait un peu ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de trap. Mais en même temps, c'était fort efficace et ça leur a permis d'aller soutirer au final une victoire de 2-0, ni plus ni moins, avec deux buts dans les arrêts de jeu, alors que l'Allemagne, évidemment, s'était projetée vers l'avant désespérément pour tenter de trouver le but du salut. Et de l'autre côté, évidemment, ben les Mexicains étaient rivés sur leur téléphone alors qu'ils perdaient 3-0 face à la Suède. C'était vraiment des effusions de joie alors que dans l'autre stade, alors que les Coréens ont marqué ce premier but comme si ce but venait de se passer devant leurs yeux. Alors vraiment des scènes incroyables, historiques aujourd'hui ici en Russie, dans deux villes différentes évidemment.
Alors on peut s'attendre dans les prochaines heures au départ du sélectionneur allemand.
Oui, Yogi Löw qui a déçu, je l'écrivais d'ailleurs, Paul, avant la Coupe du Monde, dans mes, disons, mon état des forces avant le début du tournoi, j'écrivais que le conservatisme de Joachim Löw pouvait causer sa perte. Il est allé, il y a une super belle génération de jeunes footballeurs allemands qui connaît beaucoup de succès dans de grands clubs européens, mais Joachim Löw a amené le même noyau qu'en 2014, a fait confiance au même cadre que lors de la dernière Coupe du Monde, a laissé de côté un talent particulier comme celui de Leroy Sané, un gars qui a amené une vitesse, qui amène une autre dimension, qui a beaucoup manqué aux Allemands d'ailleurs lors de ce tournoi. Même chose du côté de Manuel Neuer, à qui on a donné la cage malgré le fait qu'il n'avait pas joué depuis plus de 9 mois en raison d'une blessure. Donc de ce côté-là, plusieurs choix très très conservateurs qui, je pense, auront quand même contribué là, à mener à la perte de cette Allemagne. Donc oui, on peut s'attendre à une démission assez prochaine du sélectionneur allemand.
Alors voilà qui est réglé pour le groupe F. La Suède et le Mexique passent. Le groupe E également est réglé. Brésil et Suisse se qualifient.
Voilà le Brésil, donc avec une belle victoire face à la Serbie. Une victoire convaincante du Brésil de 2-0. Et la Suisse qui a fait match nul 2-2 face au Costa Rica aujourd'hui, c'était suffisant donc pour aller accrocher justement cette qualification au deuxième tour. Donc vraiment un groupe extrêmement serré encore une fois de ce côté-là, le groupe E, le Brésil qui s'est fait des frousses avec des performances mi figue ni raisin, mais qui s'est bonifié d'un match en match, qui je pense consolide sa position de favori, selon moi, à cette Coupe du Monde. Et on risque d'avoir un duel très très intéressant, 8e de finale, Brésil-Mexique, deux équipes qui ont déployé quand même du très beau soccer, malgré cette défaite de 3-0 aujourd'hui des Mexicains face aux Suédois.
Merci beaucoup, Arcadio, et bonne nuit à Moscou. Au revoir.
Merci, Paul. Au revoir.
Arcadio Marcuzzi en direct de la Russie. Je vois Jérémy Rainville sourire. Quelle étrange Coupe du Monde, hein?
Quand même.
Avec des résultats étonnants. Écoute, la Corée du Sud est à la portée, en principe, sur papier, de l'Allemagne.
Ah, définitivement.
Ils n'avaient qu'à gagner. Ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale. Qui aurait cru que Suède et Mexique passeraient dans le groupe F et que dans le groupe E, qui vient donc, dont on vient parler, Brésil et Suisse, ça, c'était attendu.
Mais tu vois, samedi, le 30, début des huitièmes de finale, regarde bien les confrontations. La France qui fera face à l'Argentine, c'est à compter de 10 heures. Et à 14h en après-midi, l'Uruguay affrontera le Portugal et un certain Ronaldo.
Oh, ça va être bon. L'Uruguay qui a pulvérisé les Russes, hein, 3-0 hier.
Exactement. Et dimanche, l'Espagne affrontera la Russie, tandis que la Croatie fera face au Danemark. Donc, voilà un petit week-end fort intéressant. Et dimanche, je vous invite à être au rendez-vous sur l'ensemble du réseau Cogeco. Martin McGuire sera là pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes.
Bon, ben justement, passons à ton deuxième sujet, après la Coupe du Monde, des nouvelles de la Ligue nationale de hockey. Je sais qu'aux amateurs de sport, tu reçois ce soir Martin Saint-Louis, qui est intronisé au temple de la renommée du hockey. Et là, les yeux sont tournés vers cette opération de dimanche des joueurs autonomes.
Exactement. Et là, il y a du mouvement présentement dans la Ligue nationale de hockey. On commence avec les Penguins de Pittsburgh, qui ont fait une transaction, envoie Connor Sherry et Matt Unwick du côté des Sabres de Buffalo. Connor Sherry, quand même, la saison passée, c'est 18 buts, 12 passes. Mais cette transaction-là, contre un choix repêchage, amène une économie de 5 250 000 $ aux Penguins de Pittsburgh. On apprend également en même temps, par une station de radio de Pittsburgh, le 105.9 de X, que Jack Johnson, avant avec les Blue Jackets de Columbus, pourrait s'entendre avec les Penguins de Pittsburgh pour un contrat de 5 ans et 16 millions de dollars. Donc, c'est 3,2 millions de dollars par saison. On dit qu'il y a entente et qu'on va dévoiler le tout officiellement à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, parce qu'on revient toujours à cette nouvelle règle qui permet aux organisations d'entrer en contact avec les joueurs autonomes avant le début dans cette semaine aujourd'hui. Là, c'est pour ça que John Tavares peut rencontrer tout le monde. Et d'ailleurs, à son sujet, là, ça se limite à 6. Il n'y aura pas d'appel téléphonique.
Non,
après.
Il lui reste à rencontrer les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay. Et Tavares a dit, après ça, c'est fini.
C'est fini, c'est fini. Donc, Toronto, Islanders, les Bruins, Tampa Bay, les Sharks et les Stars de San Jose sont les 6 organisations exclusivement qui auront eu la chance de rencontrer John Tavares du côté de Los Angeles. Avant ça aussi, juste oui, à dire, oui. Du côté du Canadien de Montréal, on disait aujourd'hui que le défenseur du Titan de Cathy Batters, Olivier Galipeau, lui qui a remporté la Coupe Memorial, était pour être présent au camp de développement du Canadien de Montréal. Je vous rappelle, Galipeau, 74 points en 67 matchs, défenseur offensif. Eh bien, coup de théâtre, Olivier Galipeau décide de signer un contrat avec les Bruins de Boston, un contrat avec les Bruins de Providence, en fait, de la Ligue américaine de hockey, donc ne sera pas présent au camp de développement du Canadien de Montréal. On apprend également que le gardien Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda, lui, va participer au camp de développement du Canadien. Et là, je vais donner quelques informations parce que c'est ouvert au public. Si vous voulez aller voir Jesperi Kotkaniemi, il sera là. Ça débute demain, il y a les examens médicaux, les tests physiques, mais sur la patinoire, c'est jeudi, test sur glace de 11h à 13h, match simulé de 17 à 18h. Le 30 juin, test sur glace, match simulé 16h à 17h, et le 1er juillet, dimanche, match simulé de 9h30 à 10h30. C'est ouvert, évidemment, c'est du côté du complexe d'entraînement à Brossard.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que le Canadien a les yeux tournés vers dimanche. Je dis le Canadien, les partisans du Canadien. Tavares est maintenant exclu, ce n'est plus dans les objectifs du Canadien. Est-ce que le joueur qui revient le plus souvent, dont le nom revient le plus souvent dans les rumeurs, demeure encore Paul Stachny?
Définitivement. Le Canadien a contacté Paul Stachny. Paul Stachny, 32 ans quand même, a offert de bonnes performances, a eu des saisons respectables, mais commande un salaire faramineux. Salaire, c'était 7 millions de dollars. Et là, si tu es sur le marché des joueurs autonomes, tu sais précisément que le Canadien a besoin de joueurs de centre, eh bien, il y a des chances que ça coûte beaucoup, mais beaucoup d'argent. Et c'est sur la longueur du contrat. Parce que si je reviens au camp de développement, tu vas comprendre le lien que je veux faire. Dans le camp de développement, présentement, tu as 5 ailiers gauches qui vont être là, tu as 6 ailiers droits, tu as 12 défenseurs et tu as 12 joueurs de centre. Donc, si tu veux faire de la place pour les Ryan Poehling de ce monde, tu veux faire de la place pour, comme on le dit, Jesperi Kotkaniemi, il faut pas nécessairement que tu bloques ce poste de joueur de centre-là pour les 6 ou 7 prochaines années. Tu dois laisser de la place aux jeunes pour prendre cet espace-là. Donc, ça sera à voir dans le cas du Canadien de Montréal.
Quelques secondes, mauvaise nouvelle pour les Argonauts. Ricky Ray, saison terminée.
Est-ce que tu as vu les images dans le dernier match Toronto?
De la blessure de Ricky Ray, oui.
Les Stampeders de Calgary ont amené un blitz sur Ricky Ray. Deux joueurs défensifs qui sont tombés et qui ont écrasé Ricky Ray, qui est resté au sol pendant plus de 20 minutes.
C'est un vétéran, en plus. Je veux dire, c'est pas une prime jeunesse. Là.
Non, c'est pas une jeune rose. Là. Donc, il est resté au sol pendant plus de 20 minutes, sorti sur une civière, était à l'hôpital, obtenu son congé d'hôpital. On parle de blessure au cou dans son cas. Et saison terminée du côté de Ricky Ray et des Argonauts de Toronto.
Merci beaucoup, Jérémy. À plus tard.